1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va bien et toi?
Ouais, positive attitude.
Oui, c'est le cas de dire.
Mais asymptomatique.
Oui.
Allez, tout va bien, on commence. Troisième émission d'octobre 2020. C'est des émissions de transition entre la saison 17 et cette saison 18 qu'on entame. C'est quoi cette déglutition?
C'est, je ne m'attendais pas à ce que tu commences comme ça. Ça
ah
fait
ouais
bizarre de nous rappeler qu'on est si vieux que ça.
Ah oui, c'est vrai. Le monde d'après?
Ouais.
Toujours hein.
Toujours, ouais. On fait le passage entre
oui
les deux saisons.
Ouais.
Entre le monde d'après, le monde d'avant. Enfin,
ouais.
On mélange un peu tout.
Oui, on va naviguer toute cette nouvelle saison. Encore, on aime bien ça.
Ouais, ouais, ouais. Voilà, et là, on fait un petit, pas un résumé, une petite passation entre
ouais
les deux.
Ouais.
Parce qu'il y a une petite ellipse.
C'est ça, une petite ellipse. tu nous proposes quelque chose, là? C'est ça?
Oui,
on
c'est ça.
On commence avec une proposition à toi.
Ouais, en fait, j'ai regardé La Grande Librairie il y a quelque temps. Et dans La Grande Librairie, il y avait Aurélien Barraud, il y avait Isabelle Autissier, il y avait Baptiste Morisot. Et ce monsieur, il m'a un peu interpellé quand même. C'est un philosophe, prof à la fac d'Aix-Marseille, pisteur de loups.
Ouais.
Voilà, qui aime la nature, etc. Et qui réfléchit entre autres sur la place de l'être humain dans ce monde.
Mmh.
Et je me dis que ça, c'est une réflexion très... la période d'où on vit, très monde d'après.
Ouais.
Quelle est la place de l'être humain sur cette planète, en fait?
Mmh.
Et bah voilà, il va nous en parler dans le son qu'on va écouter.
Ok, c'est parti.
Pour changer nos valeurs, pour changer tout court, il faut se munir d'un arsenal de pensées. Pour agir efficacement, hein, il n'est pas inutile de réfléchir avant. Je vous propose de le faire en plein air, au milieu des loups, au cœur de la nuit, dans la neige, en compagnie de Baptiste Morisot, philosophe, donc, disais-je tout à l'heure, maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, mais aussi pisteur de loups dans le Vercors, l'Ontario ou le Montana. Votre livre est une véritable mine d'or. Vous y racontez votre pratique de la nature, ou plutôt du vivant. Vous appelez à ajuster notre regard, ainsi qu'à une interdépendance dans un monde cosmopolite. Vous nous expliquerez ce qu'est la cosmopolitesse dans un instant. Ce livre s'intitule donc « Manière au pluriel d'être vivant ». Il est paru aux éditions Actes Sud. Alors, pour vous le dire simplement, avec Morisot, vous êtes à la croisée entre Sylvain Tesson, Jim Harrison, et puis les philosophes de l'environnement. Voilà, ça fait simple. En partant du terrain, redéfinir notre rapport aux animaux, mais aussi à tout ce qui est vivant autour de nous et dont parlait tout à l'heure Aurélien Barraud, c'est très précisément ce que vous proposez en réalité. Il n'y a pas que les humains donc qui vivent sur cette planète. On est combien d'autres espèces?
J'évoquais les 10 millions d'espèces.
10 millions?
Donc c'est une estimation, mais parce que c'est très difficile à compter, notamment dès lors qu'on s'approche de formes de vie qui ne ressemblent pas du tout aux mammifères ou aux grands vertébrés, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est essentiel dans cette affaire, c'est la fable que j'essaie de restituer en conclusion. Cette fable qui est, à mon sens, fondatrice de notre tradition et qui consiste à dire on a décidé que les 10 millions d'autres espèces qui sont nos parentes seraient, à partir d'un autre règne, qu'on allait appeler la nature, qu'il allait constituer essentiellement un décor pour nos tribulations humaines, un stock de ressources, un endroit où se ressourcer, mais que fondamentalement, on ferait passer une ligne de partage entre une espèce d'un côté et les 10 millions d'autres espèces avec lesquelles on a coévolué dans le long de l'évolution, qui nous ont façonnés, qui rendent quotidiennement notre vie possible, puisque c'est elles qui génèrent l'oxygène qu'on respire.
Il faut préciser que vous mettez pas seulement les animaux, hein, c'est les arbres également.
C'est tous les végétaux,
les plantes,
c'est les bactéries, c'est les champignons, et c'est la totalité de ces tissages entre espèces qui constituent les écosystèmes et qui nous font vivre, qui assurent l'habitabilité de la Terre. Donc il y a ce paradoxe assez fascinant que c'est simultanément nos parents et ce sont aussi les formes de vie qui assurent l'habitabilité de la Terre, qui nous font vivre à chaque instant, qui nous permettent de respirer et que nous avons réussi à projeter dans une sorte de trou noir philosophique, politique, économique, en refusant de leur donner une place dans la question fondamentale de la construction de notre monde commun. Et pour moi, c'est ça le cœur du problème. C'est qu'il s'agit de réapprendre, de comprendre que nous nous sommes trompés sur qui rend la Terre habitable. Ici, on est dans un lieu qui est assez fascinant puisqu'il est produit en totalité par la main humaine, l'intelligence et la technologie humaine. Et vivre dans des espaces de ce type, ça crée un biais qui est prodigieux. C'est qu'on finit par croire que nous sommes responsables de l'habitabilité du monde. Ouais. C'est nous qui rendons la planète habitable. Et bien, il s'agit de remettre les choses à l'endroit. Nous bénéficions quotidiennement du fait que les autres formes de vie rendent le monde habitable pour nous et pour tout le monde. Les végétaux assurent l'habitabilité de la planète en produisant l'oxygène qu'on respire. Les pollinisateurs assurent l'habitabilité de la planète en générant le retour du printemps, la fécondation des plantes à fleurs, la totalité ou une très grande partie de ce qu'on mange. Les vers de terre assurent l'habitabilité de la planète en rendant possible les récoltes. La faune des sols joue ce rôle. Et les forêts alluviales rendent possible l'habitabilité de la planète. Ce n'est pas nous, ce n'est que très secondairement qu'on aménage légèrement des espaces. Mais fondamentalement,
c'est première prise de conscience, celle-ci. Ajuster absolument. Le regard d'abord dans ce sens-là.
Et ça, c'est absolument central pour moi parce que ça permet de contourner cet héritage suivant lequel les questions écologiques, c'est pour ceux qui aiment les jolies fleurs ou c'est pour les amis des bêtes. Ça n'a rien à voir avec être un ami des bêtes. Ça a à voir avec être au clair sur qui rend la planète vivable, qui rend notre vie vivable quotidiennement. Les pollinisateurs que nous massacrons en masse avec des pratiques agricoles qui sont aujourd'hui intenables et qui passent par l'usage massif d'intrants phytosanitaires, par une mécanisation à outrance, par une dévaluation de la vie des sols, détruit les pollinisateurs alors que les pollinisateurs rendent notre vie vivable. Et nous avons coévolué avec eux, nous ne pouvons pas continuer à habiter cette planète sans eux. Alors, la question, elle est toute simple. À partir du moment où des formes de vie comme les abeilles et les pollinisateurs rendent la planète habitable, sont responsables de notre respiration quotidienne, est-ce qu'il n'est pas temps de leur donner un rôle sérieux dans nos réflexions sur comment on va faire monde commun?
Alors, quel rôle peuvent-ils jouer, justement, en ce qui concerne les abeilles, on voit à peu près. Mais si on prend les bactéries, si on prend les champignons, si on prend même les arbres, etc. Ah bah. Alors, racontez-nous, quel est le rôle qu'ils peuvent jouer et quelle place faut-il leur assigner demain pour éviter ce qu'Aurélien Barraud, tout à l'heure, décrivait, qui nous menace et qui est déjà là?
C'est une problématique qui est très centrale aujourd'hui dans la philosophie environnementale où on essaie de réfléchir à la place qu'on peut donner aux autres vivants. Moi, j'appartiens pas du tout à la tradition antispéciste ou de citoyenneté qui consisterait à poser le problème en termes d'égalitarisme. Moi, je pense que l'égalitarisme avec les autres animaux, avec les abeilles ou avec les autres mammifères, provient d'un bon problème, mais constitue une mauvaise solution. Parce qu'il ne fait pas justice à l'extraordinaire altérité que constitue la myriade de formes de vie avec lesquelles nous cohabitons. Quelle égalité penser entre moi et chacune des millions de bactéries qui peuplent mon tube digestif, avec chacune des abeilles, avec des lichens? L'égalité, à mon sens, ce n'est pas le bon problème parce qu'elle consiste à donner à chacun ce qu'on voudrait pour nous, alors que le grand enjeu aujourd'hui, c'est d'ajuster les égards à ce qui est nécessaire pour eux. Donc vous demandiez qu'est-ce qu'il faut faire, ne serait-ce que pour les pollinisateurs, il faut les laisser vivre. Il faut leur permettre de reconstituer les dynamiques écologiques qu'ils ont activées depuis que l'évolution a inventé ce jeu extraordinaire entre les plantes à fleurs d'un côté et les pollinisateurs de l'autre. Et il faut inventer les égards ajustés à leur forme de vie. Il faut inventer les égards ajustés à leurs intérêts propres en tant qu'ils constituent un acteur absolument central du monde commun. Donc, c'est une première réponse qu'on peut faire.
Est-ce que c'est une piste, Aurélien Barreau, que vous jugez recevable, praticable et efficace?
Oui, absolument. Mais mon seul petit bémol, quand même, dans ce que dit Isabelle et Baptiste, c'est que je trouve que vous avez énormément insisté sur le fait que les autres vivants sont nécessaires pour nous. Ce qui est vrai en partie, ce qui n'est pas vrai pour tous. Il y a des espèces qui pourraient disparaître sans aucun effet sur l'humanité. Et je crois que c'est quand même...
Ah, carrément.
Ouais, on lui a coupé un peu la parole.
Ouais. Non, mais c'est très, très intéressant. Alors moi, je l'avais pas vu dans cette émission, mais je me souviens plus quelle émission où il était invité. On le voit pas mal. La sortie de son bouquin, elle est assez récente. Hein.
Oui, oui, cette émission, elle est récente.
Hein. Ouais, ouais, ouais. Et ça m'avait un peu capté. J'ai peut-être écouté un matin sur une radio France Culture ou France Inter, je sais plus. Alors, au-delà du fond de son discours, c'est aussi, je trouve qu'il amène quelque chose de rafraîchissant, parce que c'est, enfin, rafraîchissant, ça peut paraître un peu superficiel ce que je dis là, mais sa façon de parler est très, très calme, très posée, et ça fait du bien aussi d'entendre des gens comme ça. Dans l'ambiance actuelle où les débats sont souvent extrêmement tendus, où les paroles assénées de façon virulente, on l'avait déjà évoqué les semaines
etc.,
précédentes. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Mm. Et du coup, ouais, ça permet. C'est une autre entrée dans tout ce qu'on peut. Évoqué ces derniers mois à SLP sur la façon de faire monde et de faire société différemment entre nous humains, mais aussi avec une prise en compte différente de toutes les espèces minérales, végétales, animales, effectivement.
Mm. Bah oui, et on se dit civilisé et avancé, mais on a avancé et on s'est civilisé de façon très bizarre, puisqu'en fait, on est quand même une des rares civilisations, on va dire, qui n'a pas pensé son rapport à la nature autrement qu'en la servissant.
En la servissant, voire en exterminant.
Oui, et quand on dit la nature, on parle du vivant autour de soi, ouais, quoi. Mmh, c'est-à-dire que c'était quelque chose dont on se sert.
C'est ça.
Et pas quelque chose avec qui on vit.
Dont on se sert et qu'on épuise. Hein. Ouais. Ça me fait penser aussi aux émissions qu'on a fait l'année dernière autour de l'agriculture moderne et comment finalement on assèche, on appauvrit les sols au lieu de les travailler différemment. Soi-disant une agriculture hyper productive pour nourrir la totalité de la population, alors qu'en fait, à terme, cette agriculture, elle court à sa perte. Hein.
Elle court à notre perte, surtout.
Ouais, tout à fait.
Et puis surtout, elle ne remplit pas son but de nourrir toute une population, puisqu'il y a quand même énormément de gens qui meurent de faim chaque année dans le monde.
Et comment elle la nourrit avec des produits qui ne sont pas d'une qualité première.
Oui, voilà. Et qu'il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus respectueuses de cette terre sur laquelle on vit et qui nourriraient aussi bien. Voire même mieux.
Sans doute mieux.
Et de façon aussi, gargantuesque, les gens.
Je pense aussi, en écoutant ce son, alors j'ai retrouvé son nom, à l'arrière-petit-fils de Sitting Bull.
Waouh.
Il s'appelle Ernie Lapointe, il est canadien.
C'est rigolo, ça fait... T'as coup, tu vois, Sitting Bull, Ernie Lapointe, je me dis, bon, il y a eu de l'évolution.
C'est ça. Et alors, c'est quelqu'un d'assez passionnant. On trouve des interviews de lui assez facilement. Et lui, il alerte complètement sur la folie de l'homme occidental et la façon dont il épuise les ressources de la Terre. Et il remet, lui aussi, à sa façon, complètement en question notre rapport à la nature. C'est vraiment une. Quand on l'écoute, on se prend de bonnes claques aussi.
Ouais, ouais. Mais c'est bien d'aller fouiller dans ces cultures-là, ces cultures ancestrales, ces héritages de cultures ancestrales. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que justement, voilà, ça nous apprend. Ce que ce virus, il nous apprend. Un peu d'humilité.
De l'humilité,
ça dépend, mais
c'est sûr. Et un retour à ce qui est notre essence et aux choses qui nous sont véritablement essentielles. En tous les cas, ça nous engage à essayer de retrouver ça, quoi.
Mais c'est une autre façon de penser le monde et c'est là où il faut être vigilant dans le monde d'après,
ouais.
pour pas qu'on continue à le penser de la même façon que le monde d'avant. Enfin, cette course au vaccin, cette course, tu vois, qui peut être utile, on va dire. Ben, on pourrait peut-être penser les choses différemment et se dire peut-être on va prendre soin de nous, de notre immunité, etc., pour pouvoir se défendre, puisqu'on a les moyens naturellement de le faire. Et peut-être on va creuser des pistes dans ce sens-là, plutôt que de trouver la molécule qui va nous sauver, comme à chaque fois.
Pertinent. C'est un changement de paradigme, tout ça.
Oui.
Et du coup, ça va très bien avec notre pause musicale. La femme, paradigme. Alors, elle est pas sympa, cette chanson.
Si t'es pas francophone, oui.
Alors, tu sais, moi, la première fois que je l'ai entendue, j'ai pas trop fait attention au texte. Par contre, la deuxième fois, parce que la forme musicale, je trouvais ça sympa. C'est un peu décalé par rapport à ce que fait la femme jusqu'à présent, ce petit côté Charleston et tout. Et quand t'écoutes les paroles...
Moi, je préfère quand ils sont sur la plage, enfin, tu vois.
Ouais. Ouais, bah oui. Mais j'aime bien
cette chanson.
Aussi,
mais...
Ouais, le contre-pied de cette chanson un peu Charleston, Nouveau Monde, avec ce texte absolument plomb. Je l'imagine bien, tu sais, à l'Eurovision, cette chanson.
Oui, parce qu'en fait, personne ne comprend le français là-bas.
Voilà, c'est ça. Et pour ceux qui le comprennent, ça peut être, tu vois, ça peut être tranchant aussi. Mm. Bon, trêve de plaisanterie, on continue. Nouveau monde, nouveau paradigme. Usul. Est-ce que tu connais Usul ?
C'est un guerrier celte.
C'est ça.
Un dieu celte, un cousin de Thor.
Tu n'as pas Thor. Et du coup, Usul, en fait, c'est un vidéaste, chroniqueur. Et moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps parce qu'il bosse beaucoup, on le voit beaucoup sur le site de Mediapart. Et il fait des sujets... très Mediapart, mais avec une sorte de décalage second degré. Sauf que là, ce que je vais te proposer comme extrait, ça m'a intéressé pour d'autres raisons, parce que c'est en fait assez sérieux comme sujet. Mais je trouvais ça intéressant dans les émissions qu'on fait là, de transition, de revenir sur un mouvement qui a éclos dans les années 90, à savoir l'altermondialisme.
Ah.
Voilà. Mouvement assez composite, et du coup ce petit module sonore qu'il a fait il y a quelques mois en mai 2020 à la sortie du confinement, ça s'appelle Le monde d'après sera altermondialiste ou ne sera pas.
Bah, je préfère ça à il sera religieux ou il sera pas,
hein. On écoute, on en parle après.
Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est peut-être pas mal de commencer par rappeler ce que c'est que ce mouvement, parce qu'en vérité c'est une galaxie de mouvements, d'organisations, mais qui se retrouve autour de quelques constats et de quelques modes d'action. Dans les années 90, après la chute du mur, le capitalisme mondial se dote d'organisations. C'est la naissance de l'OMC, une institution dont le but avoué est de favoriser l'ouverture commerciale, de garantir les accords commerciaux au nom du libre-échange. Cette institution collabore avec la Banque mondiale ou le FMI, qu'on connaissait déjà pour ses grands plans d'ajustement structurel. Bref, si le capitalisme s'organise internationalement, prend la confiance avec l'effondrement de l'URSS, il devient donc urgent de lui apporter également une réponse internationale. Et c'est tout le sens de l'altermondialisme. Les mouvements sociaux de tout pays, du Nord comme du Sud, se retrouvent face à des adversaires communs et s'organisent pour produire des réponses. L'organisation ATTAC, par exemple, est née à la fin des années 90 et propose d'instaurer une taxe internationale sur les transactions financières.
Alors ATTAC, je rappelle, c'est l'acronyme d'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne.
ATTAC, c'est l'association qui a contribué, comme tu le disais, à mettre l'altermondialisme sur la carte militante.
Au moment de l'altermondialisme, la gauche a muté, en quelque sorte. L'anticapitalisme ne pouvait plus se reposer sur le bloc communiste, les partis de gauche de gouvernement étaient gagnés par le libéralisme économique, et c'est donc hors des partis que la gauche s'est réinventée dans une approche internationaliste, sociale, environnementale et surtout pluraliste.
Aucun mouvement social n'a la réponse à lui tout seul. Aucun syndicat, aucune ONG, aucune association n'a la réponse à tous les défis qui nous sont posés quand on veut combattre effectivement le libéralisme, le dérèglement climatique et apporter des réponses alternatives.
Et ça, c'est un apport considérable de la montée en puissance, la maturation de ces nouveaux acteurs que sont les mouvements sociaux, qui sont des mouvements politiques.
Une constellation d'organisations a commencé à s'agglomérer autour des contre-sommets et des forums sociaux pour affirmer qu'il fallait changer de modèle. La crise financière de 2008, le dérèglement climatique, les mouvements démocratiques de 2019 partout dans le monde et maintenant la crise sanitaire semblent avoir confirmé beaucoup des diagnostics qui étaient déjà posés au début des années 2000. Et maintenant, une autre question se pose.
C'est la question de savoir comment on va imposer un rapport de force dans la société qui va permettre justement qu'on puisse travailler sur un jour d'après différent. Et je crois qu'à ce titre-là, le collectif qu'on a formé avec Urgence sociale et environnementale et maintenant 25 organisations pour ce 1er mai qui se sont rassemblées, c'est de dire déjà on ne veut plus opposer les questions sociales et les questions environnementales. On a beaucoup joué de ce match permanent pour éviter d'avancer sur l'un des sujets ou sur l'autre. Donc nous, et nos histoires différentes montrent que l'on veut mixer ces deux questions. Et ensuite, nous souhaitons le faire ensemble parce qu'on sait aussi que ça ne sera pas avec une aimable discussion, que les intérêts que ça met en jeu sont des intérêts extrêmement puissants, financièrement puissants, qu'ils ont une logique qui leur est propre et qu'ils veulent continuer d'imposer, et que donc il faut créer cette coalition la plus large possible.
Et donc politiquement, il va maintenant falloir créer le même genre de coalition, mais avec des partis. Seulement une bonne partie du travail est déjà effectuée.
Ce programme, c'est l'idée de la transition écologique, sociale et démocratique. Chaque mot compte.
C'est une nouvelle façon de faire de la politique. Avant, les partis commandaient et la société suivait, mais on voit bien que ce modèle a des limites. Il est vertical, fragile et pas franchement en accord avec les aspirations démocratiques qui sont celles de notre temps. Aujourd'hui, c'est aux partis d'écouter et de tirer profit du travail théorique et du travail de terrain effectué par les mouvements sociaux, la société civile et leurs associations, d'Oxfam aux Gilets jaunes, de la CGT à Greenpeace. Il est temps de repenser notre rapport aux politiques, d'innover et de travailler ensemble au-delà des querelles de chapelle et d'ego. On a souvent dit que le mouvement altermondialiste avait échoué à transformer le monde. En vérité, il a sans doute semé les germes du monde d'après, patiemment, année après année. C'est un gain de temps considérable pour tout le monde. Et voilà qui pourrait faire respirer un peu la démocratie.
Ce serait pas mal.
Tu finis aussi ces phrases.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est cool.
Ouais.
Mmh. C'est bien.
C'est intéressant.
Oui, ouais, c'est super intéressant. Mmh. Et on est pile poil dans l'époque altermondialiste, parce que justement, on s'est rendu compte des méfait en fait de la mondialisation telle qu'on la connaît.
Mmh. Et du coup, je trouve que c'est bien et ça résonne aussi pas mal à ce qu'on essaye de faire à SLP, c'est-à-dire que ces changements qui ont du mal à venir ou qu'on a du mal peut-être à qu'on espère, qu'on attend, qu'on a du mal à se voir concrétiser, malgré tout. Les germes sont là, hein. D'ailleurs c'est le terme qu'il utilise à la fin, c'est-à-dire que là ça fait maintenant 25 ans que ce mouvement composite SM, alors même si on a l'impression que quand on parle de l'altermondialisme ou de Attac par exemple qui était beaucoup plus médiatisé on va dire il y a 15 ou 20 ans, Attac ça existe encore aujourd'hui et peut-être que c'est intéressant d'aller à nouveau se tourner vers eux et d'aller éventuellement renforcer les rangs pour voir comment on peut amener sa pierre à cet édifice. En tous les cas, le travail continue à se faire, en fait.
Oui, oui, oui. Mais moi, je dirais même que les graines, elles ont germé.
Oui.
Elles ont germé quand on voit les jeunes générations qui... ce qu'on appelle les zadistes, ouais. Etc. Tu vois, tous ces mouvements-là de contestation, pour moi, c'est
la génération
héritiers directs de cette génération altermondialiste.
Tout à fait.
Et qui inventent une autre façon d'être ensemble dans le monde.
D'être ensemble dans le monde, de faire de la politique comme pareil. C'est aujourd'hui, faire bouger les choses au niveau politique, c'est pas forcément dans le milieu politique institutionnalisé que ça se fait. Ou alors ça ne pourra se faire dans ce milieu-là que si les citoyens continuent à bouger, à revendiquer, ouais. Et à faire des propositions.
Tu vois, moi, en cherchant un petit peu ce dont j'avais envie de parler dans ces émissions-là, je m'étais justement intéressé à la place du citoyen, en fait, dans cet autre monde-là. Parce qu'en fait, moi, je crois que c'est pas dans la politique où il faut chercher la solution, et il faut chercher la porte de sortie, c'est pas là. Parce que ce monde, il est trop gangréné par plein d'intérêts qui nous dépassent totalement et dont il a du mal à se défaire.
Clairement. Donc, on en parlera la semaine prochaine, ouais.
Ah, d'accord. Ouais. Donc du coup, il faut aller chercher ailleurs. Et ce ailleurs, il est chez les citoyens, chez les gens. Il faut éduquer sur comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait pour porter sa parole, pour revendiquer ou pour... sans attendre rien, parce que même en faisant ça, on attend quelque chose d'un autre, en mettant en place des choses directement soi-même. Et je trouve que là, on a une clé, on a un levier qui est vraiment hyper puissant et hyper important, et c'est, à mon avis, c'est sur ce sur quoi il faut travailler, sur que le citoyen se réveille, qu'il se prennent en main, sans attendre rien, des politiques. Les politiques, ils font leur vie, font leur chemin, nous aussi. Et on fait notre vie par nos choix de consommation, par nos choix économiques, on fait la vie aussi par, quelle relation on entretient avec les gens autour de nous, avec le vivant autour de nous, comme dirait Baptiste Morisot. Et voilà, quoi, c'est le fameux « soit le changement que tu veux voir dans le monde ».
Parfait, on va en rester là pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.